Salut les boss, c'est Stéphane, bienvenue sur la chaîne Bitcoin Rébellion. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant toute chose, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, il s'agit de divertissement, donc surtout, faites bien vos propres recherches. Allez, aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi le Bitcoin est une grosse opportunité pour les pays en voie de développement, et on va parler aussi de la Startup Nation, qui n'est pas forcément celle que l'on croit. C'est parti, on démarre tout de suite. Les gens qui vivent en Occident n'en ont pas forcément conscience, mais il y a des milliards de personnes dans le monde, dans les pays du Sud en particulier, qui ne possèdent pas de compte en banque. A priori, il y aurait 4 milliards de personnes débancarisées dans le monde. Et même sans forcément aller en Afrique, il y a des gens en France qui ont des difficultés pour ouvrir un compte bancaire. D'ailleurs, il faut se souvenir qu'avant les années 60, en France, la majorité des gens n'avaient pas de compte bancaire. C'était réservé aux personnes aisées. Alors, avant cela, évidemment, les gens utilisaient l'argent liquide, le cash en direct, sans intermédiaire, sans passer par les banques. Bon, aujourd'hui, évidemment, ça a bien changé. Et, par curiosité, posez la question à tous ceux qui critiquent le Bitcoin. Demandez-leur si c'est une mauvaise chose de vouloir proposer une solution alternative à tous ces gens qui ne possèdent pas de compte en banque. Demandez-leur si c'est mal. Moi, personnellement, je crois que c'est plutôt bien de vouloir inclure tous ces gens dans le circuit économique. Je pense que c'est bien pour eux de leur proposer une solution qui leur donne de la liberté et de l'indépendance. Alors certes, si tous ces gens ont accès au circuit économique sans passer par les banques, je comprends que ça préoccupe les banques. Mais en ce qui concerne ces gens, à leur niveau, ça me paraît une bonne chose dans l'absolu, non ? Bon, ensuite, il y a aussi des millions de personnes originaires des pays en voie de développement qui travaillent dans les pays riches. Par exemple, il y a beaucoup de Salvadoriens qui travaillent aux USA et qui envoient de l'argent à leur famille au pays. Alors bien sûr, dans cet épisode, comme vous pouvez vous en douter, on va s'intéresser beaucoup au Salvador. Mais on pourrait prendre aussi l'exemple des travailleurs africains qui travaillent en Europe et qui envoient de l'argent à leur famille en Afrique tous les mois. Bien, jusqu'à maintenant, tous ces gens avaient deux possibilités. 1. Soit faire des virements bancaires vers leur pays, alors sur des petites sommes ou sur des sommes moyennes, ça va leur coûter 10% de commission bancaire. Soit, deuxième possibilité, passer par Western Union pour envoyer du cash. Là, c'est pareil, il y a des frais sur chaque transaction et il faut même se déplacer en personne dans une agence locale. Ça veut dire qu'il faut attendre, il faut faire la queue sur place pour récupérer sa somme d'argent en liquide. Donc en gros, si le travailleur envoie, disons, 1000 dollars à sa famille, habituellement la personne qui va recevoir cet argent en Amérique latine ou en Afrique ne mettra au final dans sa poche que 900 ou même parfois que 800 dollars. Mais dorénavant, il y a désormais une troisième possibilité pour ces personnes. C'est-à-dire que désormais, au lieu de passer par une banque ou par Western Union, ces personnes pourraient juste acheter un smartphone à 100 euros qui tourne sous Android, puis installer un wallet et utiliser le Bitcoin pour envoyer et pour recevoir de l'argent. Aujourd'hui, c'est réellement devenu aussi simple que ça. C'est extrêmement simple et c'est à la portée de n'importe qui. Parce que, en fait, n'importe qui peut installer un wallet sur son téléphone. C'est une simple application, c'est gratuit, c'est ouvert à tous et surtout, c'est permissionless. Ça signifie que vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Vous n'avez même pas besoin de donner votre identité à qui que ce soit. Et donc, d'un coup, les transferts d'argent deviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus directs et quasiment gratuits. On sait que grâce notamment au Lightning Network, les échanges courants sont maintenant extrêmement rapides et les frais de transaction sont extrêmement faibles. Et en plus, ces gens désormais ont à leur disposition de l'argent qui ne peut pas leur être confisqué. Parce qu'avec le Bitcoin, le droit de propriété privée est totalement garanti et respecté. Alors bien sûr, il y a encore du chemin à faire. C'est pas encore un usage qui est généralisé, mais ça avance. On est en 2022 et le protocole Bitcoin est déjà suffisamment mature et suffisamment solide pour pouvoir relier entre des milliards d'humains et des dizaines de millions d'entreprises les unes aux autres, en direct, sans banque, sans intermédiaire, sans Visa, sans Mastercard, sans système de surveillance systématique sur toutes vos transactions. Donc il suffit juste, comme je l'ai dit, d'avoir un smartphone ou un ordinateur et en fait, il suffit juste de se lancer et de se jeter à l'eau, tout simplement. Et donc, pour parler un peu plus du Salvador, là-bas, comme vous le savez sans doute, le Bitcoin est désormais une devise légal à côté du dollar US. On peut souligner que cette décision d'adopter le Bitcoin, prise par le président salvadorien Nayib Bukele, a surpris tout le monde. C'était il y a un an, ça a été une surprise et ça a été vraiment un gros coup de projecteur sur ce petit pays situé juste en dessous du Mexique. D'ailleurs, vous savez, c'est marrant parce que Salvador en espagnol signifie sauveur. Et le Salvador est un petit pays donc. Et je pense que jusqu'à encore tout récemment, personne ne connaissait ce pays et personne n'aurait été capable de vous le situer sur une carte. Donc ça a été un geste audacieux du président Bukele. Ça a été un pari sur l'avenir et du coup, d'ici quelques années, j'ai le sentiment que ça peut propulser le Salvador aux côtés de Singapour et aux côtés des Émirats Arabes Unis sur la liste des petits pays qui ont su innover chacun à leur façon et qui ont su devenir riches et prospères. Devenir riche et prospère, c'est tout ce qu'on souhaite à ce petit pays qui, mine de rien, ouvre aussi la voie vers un monde plus libre économiquement. Et d'ailleurs, c'est vraiment important que ce petit pays réussisse son pari parce que aujourd'hui, c'est le premier à ouvrir cette voie officiellement. Et forcément, certains veulent le voir échouer. Mais si le succès est au rendez-vous, d'autres pays suivront et lui emboîteront forcément le pas, rapidement. Mais entre nous, je pense que le Salvador est déjà en train de gagner son pari. On va voir ça un peu plus loin dans cet épisode. Alors effectivement, auparavant, quand on nous parlait du Salvador, on pensait tout de suite aux gangs, à la drogue, mais ça a changé. Le tourisme a énormément progressé. On est sur des taux annuels de croissance du PIB de 10%, une hausse des exportations de 17%, une baisse du chômage de 7% par an. La criminalité a baissé de 95%. Donc c'est un très bon bilan pour ce président. Ça devient un pays qui est de plus en plus sûr. Bon, contrairement à la France ou aux États-Unis, dont certains quartiers deviennent plus dangereux finalement que le Salvador. Et donc évidemment, en Occident, notamment dans certaines élites, il y a beaucoup de gens qui ont en réalité très peur que le Salvador réussisse. Et je pense qu'à un moment donné, les pays occidentaux devront quand même vraiment redescendre un petit peu de leur piédestal. Franchement, quand on se souvient de certains hommes politiques en France qui, dans leur discours, ont voulu nous faire gober que la France était la Startup Nation. C'était, bien sûr, évidemment, comme toujours, du bavardage. La Startup Nation, aujourd'hui, j'aurais plutôt envie de leur dire que c'est le Salvador. Nous, en ce qui nous concerne, on peut pas dire que la France soit une Startup Nation, compte tenu du fait qu'on sort de 2 ans de chantage, avec 2 confinements. On a eu, rappelez-vous, les fameuses auto-attestations, les lois qui t'interdisaient de boire ton café debout ou qui t'interdisaient d'aller dans les rayons non essentiels des supermarchés. On ne peut pas s'appeler Startup Nation dans un pays où aujourd'hui on te demande de mettre un pull à col roulé, de baisser ton chauffage chez toi, de prendre des douches froides. Et je vous dis ça, mais on pourrait reparler pendant des heures de tout ça, de ce qui s'est passé durant ces dernières années. Si on remonte ne serait-ce qu'à quelques mois en arrière. Souvenez-vous de comment on a forcé les gens à fermer leur business pendant plusieurs semaines. C'est pas si lointain que ça. Je pense aux restaurants, aux salles de sport, aux discothèques. D'ailleurs, à ce moment-là, le gouvernement aurait pu prendre certaines précautions particulières, peut-être vis-à-vis des personnes à risque, tout en gardant un peu de souplesse vis-à-vis du reste de la population. Il aurait pu essayer de faire preuve d'un peu de nuance, mais il ne l'a pas fait. Il n'y a pas eu de recherche, si vous voulez, d'un juste milieu. On a mis tout le monde dans le même sac. Ils ont interdit des médicaments peu coûteux sur lesquels on avait des décennies de recul et qui, d'après de nombreux spécialistes, donnaient de bons résultats sur les patients. Donc on ne peut pas s'appeler Startup Nation dans un pays qui restreint nos libertés comme il l'a fait et qui régresse sans cesse depuis de longues années. Même avant le Covid, souvenez-vous, je ne vais pas revenir sur l'épisode des Gilets jaunes. On se souvient des brutalités perpétrées sur ces gens qui finalement ne réclamaient pas grand-chose, mis à part de payer leur essence à des prix raisonnables. Et maintenant, après tous ces événements, c'est assez hallucinant de voir que les gens qui ont porté le masque pendant 2 ans, avec finalement beaucoup d'obéissance, ces gens-là sont prêts aujourd'hui, apparemment, d'après les médias, à soutenir une guerre contre la Russie. Ils avaient peur d'un virus, mais tout d'un coup, là, apparemment, avec une espèce de désinvolture très surprenante, plus personne ne voit d'inconvénient majeur à démarrer une 3e guerre mondiale contre une puissance nucléaire qui est capable de faire voler au-dessus de nos têtes des missiles nucléaires de plusieurs mégatonnes à Mach 20 ou à Mach 30. Je veux dire, ça ressemble quand même à un sketch permanent. On a un défilé ininterrompu de clowns qui viennent faire de la propagande sur les plateaux télé, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'ils en ont rien à foutre de l'Ukraine. Tantôt virologues ou tantôt experts militaires, ils sont dans la surenchère au lieu de chercher des solutions pacifiques. C'est en permanence la stratégie de la peur. Et en même temps, tous ceux qui émettent un avis différent sont pointés du doigt, réprimandés. Et bien sûr, sur la question du Bitcoin, 90% de ces journalistes et de ces politiques ne connaissent pas non plus le sujet. Mais le discours général, le narratif officiel, c'est de dire que le Bitcoin est sans valeur, évidemment. Et donc, à un moment donné, il faut dire les choses. Il faut reconnaître qu'il y a des pays qui s'engagent dans la bonne voie et qu'il y a des pays qui s'enfoncent de plus en plus dans l'hystérie et même finalement qui s'effondrent. Voilà, parce que même si les gens n'en ont pas tous conscience, je pense que l'effondrement est déjà en cours actuellement chez nous. Et d'une certaine façon, le Bitcoin va être un refuge et un outil de protection face à cet effondrement. Et voilà, et je pense que je reviendrai de toute façon probablement sur tous ces événements un peu plus longuement dans un prochain épisode, parce que tout est lié en réalité à ce qu'on appelle le Great Reset. On en entend d'ailleurs beaucoup parler en ce moment. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse et si c'est une bonne idée d'en reparler dans un prochain épisode. Merci d'avance. Bon, et donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la vraie Startup Nation, c'est pas la France, malheureusement, je l'ai dit, mais pour moi, c'est plutôt le Salvador, parce que le Salvador a la chance d'avoir un vrai boss, comme Nayib Bukele, à sa tête, qui a une vraie vision d'avenir, qui mène son pays dans la bonne direction. Et donc, c'est un pays qui a plein de projets enthousiasmants pour le futur. Par exemple, ils ont prévu de créer une ferme de minage de Bitcoin qui sera installée sur un volcan. Et cette installation sera alimentée avec de l'électricité produite de manière propre par la géothermie, c'est-à-dire grâce à de la chaleur dégagée par le volcan. Et évidemment, à l'inverse, vous imaginez bien que chez nous, c'est pas la même ambiance. On a des politiques qui gémissent, qui se lamentent à tel point qu'ils veulent taxer les vaches, parce que, vous comprenez, les pets de vaches, ça dégage du méthane dans l'atmosphère et donc c'est pas bon pour le changement climatique. Vous voyez tout de suite la différence entre un pays qui avance, un pays qui se contracte sur lui-même, un pays comme la France qui décline tout simplement, un pays où les plus hauts dirigeants emmerdent les citoyens en permanence. Vous voyez, c'est pas la même énergie, ce sont pas les mêmes priorités. Voilà, après, moi j'aime mon pays, je fais juste une constatation générale. Je suis le premier à reconnaître qu'à la base on a des gens compétents, on a de très bons entrepreneurs en France, on a des grandes qualités dans la population française, on a une majorité de gens plutôt honnête et plutôt gentil, peut-être même un peu trop d'ailleurs. Et le problème ne se situe pas à leur niveau, le problème se situe tout en haut, au niveau de ceux qui dirigent le pays. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit, je cite, que le poisson pourrit par la tête. Donc voilà, et malheureusement, nos élites, on ne devrait pas les appeler nos élites, mais nos dirigeants actuels n'ont pas le niveau, ils n'ont pas la vision globale, et ils sont incapables de prendre la moindre décision de manière souveraine. Il leur faut forcément l'accord de Bruxelles, l'accord de la Banque centrale, l'accord de l'administration américaine. Il leur faut l'accord de l'OTAN, l'accord de Davos, l'accord de Pierre, Paul, Jacques, je sais pas qui, etc. Et puis, il y a toujours cette ambiance défaitiste transmise en non-stop par les médias mainstream. D'ailleurs, suivez le plus possible des médias indépendants. Je pense que ça fait vraiment une vraie différence. Mais regardez, je prends cet exemple. En ce moment, si vous allumez la télé, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit « je baisse, je décale, j'éteins ». Ça veut dire quoi? En gros, on vous demande quasiment de couper votre chauffage, de couper votre box internet, de vous recroqueviller en boule, d'éteindre la lumière et de plus bouger. Je veux dire, c'est ça le message. Alors, on peut faire des économies, oui, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de polluer la planète comme des cochons. Je suis d'accord avec ça. On n'est pas obligé de balancer nos déchets plastiques dans l'océan. Oui, bien évidemment. C'est du bon sens tout ça, mais on n'est pas obligé non plus d'être toujours si fataliste, on n'est pas obligé de puer la défaite comme ça, non? Et donc, à contrario, heureusement, ailleurs dans le monde, il y a des pays qui sont plus optimistes, qui vont de l'avant, qui y croient, il y a des pays où on s'excuse pas quand on démarre sa voiture, on ne culpabilise pas quand on utilise raisonnablement sa clim, vous voyez? Parce que finalement, le seul moment où on a une empreinte carbone nulle, c'est à notre mort, faut être clair. Et donc, heureusement, il y a des pays qui ne s'arrêtent pas de vivre, qui se projettent dans le futur, et très probablement, ce qui va arriver, je l'espère, c'est que d'autres pays, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, progressivement, vont suivre bientôt l'exemple du Salvador, et ça, c'est cool. Tout récemment, Vous avez l'exemple de l'État de l'Arizona aux États-Unis qui a lui aussi reconnu le Bitcoin comme devise légale. On a une île autonome du Honduras qui a reconnu le Bitcoin comme devise légale en avril 2022. Je crois que l'île de Madère a fait également la même chose. On a aussi la République de Centrafrique qui a fait de même. Et bientôt, on aura probablement d'autres pays d'Amérique latine qui vont suivre, comme le Paraguay ou peut-être comme le Mexique ou le Guatemala. On a parlé aussi de la Namibie au cours des derniers jours. Donc, affaire à suivre. On a aussi la ville de Rio de Janeiro au Brésil qui a annoncé qu'elle allait placer 1% de sa trésorerie en Bitcoin. On a le maire de Miami qui a dit qu'il allait toucher son salaire en Bitcoin. Il y a la Russie qui a déclaré officiellement qu'elle avait des avantages compétitifs pour pratiquer l'activité de minage de Bitcoin dans certaines de ses régions. Enfin, il y a énormément de news qui sont toutes totalement bullish pour le Bitcoin et les dominos tombent petit à petit. Et puis à une échelle plus petite, les gens parlent entre eux. Il y a des gens qui, petit à petit, individuellement, arrivent à convaincre leurs amis ou des membres de leur famille. Donc ça avance, sans faire de bruit, doucement mais sûrement. Vous voyez? Et puis bon, bah, à l'inverse, on a des pays pour qui les choses ne s'arrangent pas et même pour qui les choses deviennent dramatiques. Alors je ne vais pas taper constamment sur la France. On peut parler du Liban aussi, par exemple. Au Liban, c'est la catastrophe. Il y a le contrôle bancaire qui fait que les gens ne peuvent plus retirer l'argent qu'ils ont en dépôt sur leur compte en banque. C'est censé pourtant être leur propre argent, puisqu'il a été durement gagné. Mais on voit que c'est avant tout l'argent des banques. Et donc, ils ne peuvent plus retirer que de toutes petites quantités d'argent. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a régulièrement dans ce pays des émeutes et des braquages devant les agences bancaires. Également, les prix également ont explosé dans les supermarchés libanais. Et donc, le Liban, aujourd'hui, c'est l'opposé du Salvador. Tout simplement, c'est l'anti-Salvador. Et c'est très compliqué aussi, d'ailleurs, d'une manière générale, pour tous les pays du Sud, qui doivent rembourser leurs dettes libellées en dollars, vu que le dollar a beaucoup monté sur ces derniers mois. Donc, quoi qu'il en soit, et de toute évidence, le Salvador a bien joué le coup, notamment sur le plan marketing. Faut reconnaître que c'était très bien joué, parce que cette décision a été un coup de pub énorme pour le pays et pour le président en lui-même. Je pense qu'il y a beaucoup de présidents en Amérique latine qui sont jaloux de Bukele. Et au final, ce qu'il faut tirer comme enseignement de tout ça, c'est que le Bitcoin sera probablement adopté, je pense, de façon massive en premier dans les pays, entre guillemets, pauvres ou, en tous les cas, dans les pays où la monnaie est déjà très affaiblie. Parce que les gens ont déjà vécu un effondrement de leur monnaie et ont déjà compris certaines choses. Je ne vous ai pas parlé encore du Nigeria. C'est le deuxième pays qui a le plus gros volume annuel en termes d'échanges et de transactions en Bitcoin au monde. Donc c'est l'illustration vivante parfaite de mon propos. Aujourd'hui, en termes d'adoption, le Nigeria est vraiment très nettement en avance sur nous. Les Ukrainiens aussi sont parmi les plus gros utilisateurs au monde de Bitcoin. Chez nous, en Europe occidentale, le processus d'adoption sera sans doute plus long parce que les gens ont moins conscience pour l'instant de la perte de valeur de leur monnaie. Donc chez nous, il faudra peut-être 10 ans de plus pour que le Bitcoin soit mieux compris par le grand public. Mais avec l'inflation, ça viendra. Quand les gens paieront leurs produits de consommation courante de plus en plus cher chaque mois, ils comprendront. Avec l'affaiblissement de leur monnaie, les gens comprendront. Et même les entreprises, un jour, probablement comprendront qu'elles ont, elles aussi, intérêt à avoir du Bitcoin dans leur bilan comptable. Bon, et puis certainement qu'une partie de la population ne sera pas concernée par cette adoption, parce que simplement, ça ne fera jamais partie de leurs préoccupations. Leur souveraineté individuelle ne les intéresse pas. Je juge pas, c'est comme ça. Mais en tous les cas, comme je viens de le dire, il est probable que les pays du Sud adoptent le Bitcoin avant les pays occidentaux. Et du coup, il n'est pas impossible que les pays du Sud s'enrichissent considérablement par rapport aux pays du Nord. Alors, on va peut-être pas s'avancer non plus trop vite. Je vous dis pas que les pays du Sud vont rattraper les pays du Nord demain. Mais c'est peut-être le début d'un certain rattrapage ou d'un certain rééquilibrage au niveau mondial qui peut se faire au cours des prochaines années. Et donc, au niveau de la géopolitique, c'est peut-être quelque chose de très étonnant, de très intéressant qui se produit sous nos yeux. C'est peut-être un basculement qui est en train de débuter. On se dirige certainement, à mon avis, vers un monde multipolaire, vers un monde plus équilibré qu'auparavant, et il faudra suivre ça avec beaucoup d'attention. Et au final, les Occidentaux réaliseront un jour peut-être que leur monnaie n'était pas si forte que ça. Et ils y viendront à leur tour également en temps voulu. Et je terminerai là-dessus. Concrètement, ce qui s'est passé pendant des décennies, c'est que les pays occidentaux faisaient marcher leur planche à billets et échangeaient leurs billets papier contre des biens tangibles et contre des biens précieux qui étaient produits dans les pays du Sud et même dans des pays comme la Russie. C'est-à-dire qu'ils échangeaient leurs billets papier sans réelle valeur contre des métaux, contre du gaz ou contre du vrai pétrole. Autrement dit, pendant très longtemps, on a pu importer des biens tangibles et des matières premières réelles contre des billets fraîchement imprimés. Il nous suffisait simplement d'imprimer un peu plus de billets pour en échange importer plus de marchandises réelles. Et justement, c'est cette époque probablement qui est en train de prendre fin. Parce que la fausse monnaie est une drogue, c'est un mensonge. C'est très difficile d'arrêter d'imprimer, on le sait. En plus, du point de vue historique, la planche à billets conduit bien souvent, si ce n'est pas toujours, à des catastrophes. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, la machine se grippe toujours et la musique s'arrête de jouer. Donc voilà les amis, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est sur ces bonnes paroles que je vais terminer ce long monologue. Je ne sais pas à combien de temps on en est, mais à mon avis, ce sera un épisode assez long. Et donc, je vais vous laisser. J'ai peut-être poussé un petit coup de gueule aujourd'hui dans cet épisode, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que le monde change en ce moment à toute vitesse. Et en même temps, on voit bien que tout ça est malgré tout assez positif à l'échelle du monde et assez positif pour le long terme. Je trouve que El Salvador est porteur de beaucoup d'espoir et il faut croiser les doigts pour que ce pays réussisse. Et donc rappelez-vous aussi que quand vous achetez du Bitcoin, c'est bien plus qu'une question d'argent, ça va au-delà de l'argent. En fait, à notre petit niveau, acheter et utiliser le Bitcoin, c'est aussi soutenir un certain type de gouvernance, ça revient à soutenir un certain projet de société. Et en même temps, acheter du Bitcoin, c'est aussi sanctionner un certain type de gouvernance. C'est même abandonner et quitter un ancien type de modèle de société. Et donc, vous pouvez agir individuellement pour vous et pour votre famille, comme le fait El Salvador. C'est un petit peu comme si vous votiez avec votre argent. En réalité, c'est même totalement ça. Quand vous basculez sur le Bitcoin, en réalité, vous faites un choix, vous votez avec votre argent. C'est un moyen de participer à une révolution pacifique, de quitter un système pour en adopter un nouveau. Et d'ailleurs, c'est probablement beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace, je pense, et beaucoup plus concret qu'un bulletin de vote classique. Donc voilà les amis, cette fois je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Viva El Salvador, hasta luego amigos, et salut les boss.